Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galbric Drapé.
Aujourd'hui, troisième épisode de notre série sur les animaux, avec un texte de Plutarque. Et cette question, les bêtes sont-elles plus raisonnables que les hommes ? Nous considérons le plus souvent les bêtes comme des êtres inférieurs, et pourtant elles sont capables de réalisations remarquables. Le vol d'un pôle à l'autre de la sterne arctique, par exemple, ou le miel des abeilles, ou la toile de l'araignée. Qui de nous peut tisser une telle toile avec un fil qui sortirait de son derrière ? Par ailleurs, les bêtes sont toujours sages. Elles connaissent leurs besoins et mènent une vie régulière, sans les défauts ni les excès que l'on rencontre toujours dans l'espèce humaine. En vérité, seul l'homme est capable de bêtises et de bestialité. Alors, peut-on dire que les bêtes dénuées de raison sont plus raisonnables que nous ? C'est ce que nous propose Plutarque dans le texte que nous allons entendre, où un compagnon d'Ulysse, Grylus, que la magicienne Circé a changé en cochon, explique que pour rien au monde, il n'accepterait de redevenir un homme.
Maintenant, cher Ulysse, que Circé m'a changé en cochon, je suis débarrassé, je suis purgé des admirations fausses. L'or et l'argent sont pour moi comme les autres pierres. Je passe à côté sans y prendre garde. Tes tuniques et tes tapis ne me seraient pas, je te le jure, plus agréables pour dormir, quand j'ai la panse pleine, qu'un bourbier bien profond et bien moelleux. C'est ainsi qu'aucune de toutes ces convoitises factices n'est lie domicile au sein de nos âmes porcines. Et néanmoins, les désirs et les voluptés nécessaires abondent dans notre existence. Ce ne sont même plus des nécessités, ce sont des jouissances naturelles que nous goûtons sans avidité et sans désordre. Le sanglier n'est attiré vers la laie, le bouc vers la chèvre, chaque autre mâle vers sa femelle, que par la fraîche odeur de rosée et d'herbe des champs qu'exhale cette moitié de lui-même. C'est une tendresse commune qui préside à leur rapprochement, sans que les femelles, par une coquetterie raffinée, provoquent les désirs à force de ruses, de séductions et de refus, sans que les mâles, dans leurs transports impudiques, poursuivent à prix d'argent et par de fatigantes assiduités le droit de se reproduire. Parmi nous, l'amour est sans artifice. Il est opportun, il ne se vend point. Il se produit à une saison fixe de l'année, comme le mouvement de la végétation. Allumé à la fois dans les veines de tous les animaux, c'est un désir qui ne tarde pas à s'éteindre. Dès que la femelle a conçu, elle n'accepte plus les recherches du mâle, et celui-ci n'essaye pas de les continuer. Tant il est vrai que chez nous, la volupté est peu de chose, et qu'à nos yeux, elle est à peu près sans force et sans valeur. Tout est pour la nature. Aussi, l'amour des mâles avec les mâles, des femelles avec les femelles, est-il un goût qui ne s'est pas, jusqu'ici du moins, produit parmi nous, tandis que chez vous, cette odieuse passion égare les personnages les plus graves et les plus courageux.
Fabrice Hadjadj, les désirs et les voluptés nécessaires abondent dans notre existence, nous les goûtons sans avidité et sans désordre. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors nous avons ici un texte d'un des plus grands auteurs de l'Antiquité, un auteur qui m'est particulièrement cher, hein, je dois dire, Plutarque. Plutarque qu'on voit parfois comme un tarvenu, un compilateur, qui n'aurait pas du tout l'intérêt d'un Platon, d'un Aristote ou d'un Plotin, si on veut prendre des auteurs plus contemporains de Plutarque. Donc Plutarque est un auteur du 1er siècle. Il est prêtre de Delphes, donc il est père de famille, il a eu 5 garçons, on ne sait pas trop pour ses filles. Il a une vie, je dirais, beaucoup plus pratique et il va écrire de nombreuses œuvres morales en explorant des voies. Et on voit bien ici que c'est une fiction, hein, on imagine un compagnon d'Ulysse Donc là, on est dans ce passage de l'Odyssée où Ulysse est chez la magicienne Circé. Elle voudrait le garder avec lui. Elle change ses compagnons en porcs. Et voilà que Plutarque invente cette situation de toute pièce. Voilà qu'un des compagnons ne veut pas partir, ou peut-être même les autres, parce qu'il est satisfait de sa condition porcine. Donc Plutarque est capable d'une pensée extrêmement originale, mais surtout d'explorer, voilà, d'explorer des voies. Et il posera des questions très profondes, comme pourquoi la pythie, hein, celle de l'oracle de Delphes, ne rend plus ses oracles en vers, pourquoi les dieux païens peuvent mourir. Ça, c'est la première chose, hein, la mort du grand Pan, par exemple, texte vraiment extraordinaire de Plutarque. Je dirais un auteur très chrétien, et en outre, Plutarque est l'auteur de cette œuvre qui est un chef-d'œuvre, hein, de la littérature, mais qui va avoir une influence considérable à travers toute l'histoire, à savoir les vies parallèles. Donc des textes historiques qui mettent en parallèle des héros grecs anciens et des héros romains. Lui-même, il écrit en grec, hein, le grec de la Koiné, mais on est à une époque où c'est quand même l'Empire romain qui domine. Et ces parallèles de héros vont marquer d'autres personnages politiques qui vont vouloir être héros à leur tour parce qu'ils ont lu les vies parallèles. Par exemple, s'il n'y avait pas eu les vies parallèles de Plutarque, il n'y aurait pas eu Napoléon. Et c'était le livre de chevet des hommes politiques. Et puis, bien sûr, une mine d'enseignement, d'érudition, de sagesse. Montaigne, par exemple, n'existe que par Plutarque aussi, hein, et il ne cesse de le citer dans ses essais.
Alors Fabrice Hadjadj, venons-en à ce texte de Plutarque. Est-ce que l'animal est plus raisonnable que l'homme? La grande question. Et est-ce que en fait la raison de l'homme l'éloignerait de sa vraie nature, par exemple, qui serait bonne?
Alors, c'est ça qui est très intéressant dans ce texte. Donc, les bêtes, je ne vais pas dire l'animal, terme moderne, oni, nous sommes aussi des animaux, mais nous ne sommes pas des bêtes. Mais voilà, les bêtes, le terme qui est employé, en fait, par le grec de Plutarque, c'est allogoi. Donc, les sans raison. Donc, soit on le dit à l'inverse, on dit... est-ce que les bêtes sont bêtes ou est-ce que les bêtes ne seraient pas moins bêtes que les hommes? Voilà. Soit on le dit vraiment comme c'est écrit par Plutarque. Est-ce que les allogoi, les sans raison, ont finalement une raison et même une raison supérieure à l'homme? Et derrière cette idée-là, il y a sans doute une ambivalence autour du terme raison. Là, on est d'emblée dans une fable où un porc parle du temps que les animaux parlaient, dirait La Fontaine, dans Le Lion amoureux. Et de fait, c'est ça qui crée une situation un peu paradoxale, parce qu'un cochon ne parle pas. Enfin, il serait déjà avec son groin en train de fouir la terre. Donc c'est une fable. Bon. Cependant, qu'est-ce que met en évidence ce cochon qui parle? Effectivement, le fait, non pas qu'il a la raison au sens d'une connaissance abstraite qui va impliquer un discernement, avoir à faire des choix, et donc la possibilité de faillir dans ses choix, de faire des mauvais choix. Bon. Non, ce dont il parle, c'est le raisonnable au sens d'être dans l'ordre, voilà, de rester sur les rails de ce qui est bien. Et voilà ce qui est mis en évidence, c'est que les bêtes agissent par instinct, que les bêtes sont, pour leur propre bien, infaillibles. Et nous, on a peut-être l'infaillibilité pontificale, mais on pourrait dire que tout porc possède l'infaillibilité porcine. C'est ça ce qui est sous-entendu, hein, bon, par le texte de Plutarque. Et qu'est-ce que c'est que cette infaillibilité porcine, l'infaillibilité des bêtes? Ben, c'est de dire qu'elles savent vers quelle nourriture aller, qu'elles connaissent le temps de leurs amours, que quand elles copulent, c'est pour se reproduire, qu'il n'y a pas, dit Plutarque, alors maintenant aussi, aujourd'hui, ceux qui s'occupent des mœurs des bonobos nous parleront de l'homosexualité des bonobos, mais enfin bon... dire tout ce qu'on veut, dire, mais ce qui est intéressant, c'est que là, plus tard, c'est un porc qui parle et qui dit, voilà, nous, il n'y a pas de pédérastie, il n'y a pas de lesbianisme, alors que chez vous, ces choses-là existent. C'est pas d'ailleurs un... C'est un jugement de valeur, hein, vous voyez, chez Plutarque, quand on dit que les Grecs étaient... enfin, qu'on pouvait aller se faire voir chez les Grecs comme ça. Ben non, pas du tout, en fait, il y a un vrai problème, d'ailleurs, même chez Platon. On en avait déjà parlé. Mais, même s'il part de cette odieuse passion qui égare, c'est pas tellement un jugement de valeur qui est en jeu. C'est de dire... Vous voyez, chez les porcs, on reste dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire que la sexualité aboutit à la reproduction. On pourrait très bien retourner la chose en disant « Ah oui, bah alors, la sexualité est d'autant plus humaine qu'elle n'aboutit pas à la reproduction. » Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas clair, hein, ici, c'est pas l'enjeu. Mais l'enjeu, c'est de nous dire « Il y a chez les bêtes un ordre. » Et on pourrait dire la même chose des plantes, et on pourrait dire la même chose des astres, hein, qui reviennent périodiquement, selon un mouvement circulaire que l'on peut prédire. Il n'y a pas d'errance, il n'y a pas d'astre vagabond. Dès lors, c'est une certaine conception du raisonnable et une certaine conception de la vertu qui est en jeu. Et donc, oui, on pourrait dire, dans ce sens-là, que les bêtes sont plus raisonnables que nous, en tout cas qu'elles ne vivent pas, elles ne peuvent pas connaître les désordres que nous connaissons. Et comme vous le disiez au départ, enfin on pourrait peut-être en parler à présent, c'est-à-dire que voilà, nous sommes exposés, nous, à la bêtise, que ne connaissent pas les bêtes finalement.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, les bêtes sont-elles plus raisonnables que les hommes ? Justement, venons-en à cette question de la bêtise. Il est particulier de voir que c'est l'homme seul qui est capable de bêtise. Est-ce que c'est un si la raison est ce qui nous distingue de l'animal, est-ce qu'on pourrait dire que la bêtise est un fruit, un mauvais fruit, mais un fruit quand même de notre raison ?
Oui, comment s'opposer à une affirmation aussi, je dirais, évidente, si paradoxale qu'elle paraisse, Galdric ? Je pense que, effectivement, il y a deux choses. L'un dans l'ordre de la connaissance, qu'on appelle la bêtise, et l'autre dans l'ordre de l'action, qu'on appelle la bestialité. Bon. Alors, d'un côté, effectivement, on peut dire... Les animaux, les autres animaux ne connaissent pas la bêtise. Les bêtes ne sont jamais bêtes. Et effectivement, nous pouvons manger comme des cochons, voilà. À ce moment-là, nous sommes dans la bestialité. Mais quand le cochon mange comme un cochon, il mange très bien. Il connaît les bonnes manières du cochon. Nous pouvons jacasser comme des pies, mais quand la pie jacasse, c'est sa vie naturelle de pie, elle n'est pas dans un désordre de la conversation. Donc, effectivement, nous pouvons errer, c'est l'égarement dont parlait Plutarque, errer au sens intellectuel, donc nous tromper, et errer au sens moral, c'est-à-dire sortir du bien et foncer droit dans le mur. Donc c'est vrai que bêtise et bestialité sont des propres de l'homme. Mais désigner des propres de l'homme, ça n'est pas dire l'essence de l'homme. Parce que dire l'essence, c'est dire la raison d'une série de propriétés qu'on voit. L'homme rit, par exemple, on présentait le rire comme le propre de l'homme, mais pourquoi est-ce que l'homme rit ? Quelle est la racine de tout cela ? Et on peut dire, là, justement, comme vous l'avez dit, que la bêtise et la bestialité sont issues effectivement, de la raison humaine. Et quel est le propre, justement, enfin, quelle est la caractéristique de notre raison ? On peut le dire de deux manières. Hein. On peut dire, notre connaissance est abstraite, elle ne nous tourne pas directement vers des biens particuliers, parce que si on disait, voilà, c'est ça qui est ton bien, hop, on se jetterait dessus, et puis voilà, il y aurait un automatisme. Et on voudrait d'ailleurs que les algorithmes nous redonnent des instincts de ce type. Non, nous avons à discerner, comme l'est dit dans la Bible, l'homme a été livré à son propre conseil. L'homme doit et est responsable de sa propre vie. Et il a cette particularité. Et c'est pour ça qu'il est capable de pécher. On a parlé de la bêtise et de la bestialité, mais parlons du péché. L'immoralité est une possibilité humaine. Le péché est une possibilité humaine. L'erreur est humaine, dit le proverbe. Donc voilà. Ce sont des caractéristiques humaines, mais issues du fait que de la liberté de l'homme et d'une connaissance qui est ouverte au monde. Parce que cette liberté de l'homme présuppose une dimension de la connaissance, c'est que l'homme peut tout connaître. Et donc, il peut oublier le nécessaire au profit du superflu. L'homme, justement, va se passionner, par exemple, de textes de Plutarque, et puis, comme moi je suis en train de le faire pour enregistrer cette émission, laisser ses enfants chez lui, alors que peut-être qu'ils ont besoin de lui, vous voyez, en ce moment, et qu'il y a une crise à la maison, j'en sais rien. Et vous voyez, alors là, j'aurais été très bête, et peut-être, bon. L'homme peut se passionner de la reproduction du petit pois, comme l'a fait le frère Grégor Mendel. Il se passionne pour la reproduction du petit pois, c'est sa vie, ou la vie sexuelle des mouches, ça l'intéresse. Et il peut passer à côté de sa propre femme, parce qu'il est en train d'étudier la vie sexuelle des mouches et qu'il reste encore dans son laboratoire. Donc, vous voyez, il y a cette possibilité de l'homme qui est liée à cette ouverture à l'universel, cette ouverture à l'univers. Alors que les bêtes, justement, ont un type de connaissance qui est justement resserré autour de leur propre vie, leur propre subsistance. Voilà la grande différence. C'est pour ça que oui, c'est parce que nous sommes ouverts au monde que nous pouvons, c'est l'histoire de Thalès, le premier philosophe, on dit, et le rire de la servante. Thalès regarde les étoiles et ne voit pas ce qu'il y a sous ses pieds et tombe dans un trou. Et la servante dit, ce type qui est sage, cet astronome, ce physicien, qu'est-ce qu'il est bête. Et sous un certain rapport, il est bête. Mais il est bête précisément parce qu'il est capable de se tourner vers les étoiles et de plus regarder ce qu'il y a sous ses pieds.
Dans cette fable, Fabrice, Grylus semble nous indiquer quand même qu'il y a une supériorité dans le règne animal par rapport à la condition humaine, du fait qu'il ne se perd pas dans le superflu, l'animal ne se perd pas dans le superflu, est toujours raisonnable et ne fait rien qui sorte du bon chemin de sa nature. Et donc, on pourrait presque entendre de la part de Grylus lui-même, qui était un homme qui est devenu un porc, qu'il y a quelque chose de plus sain à être un porc qu'à être un homme. Comment est-ce que on peut se servir, ou au contraire, ne doit-on pas se servir du règne animal pour notre propre morale?
Oui, alors ça, c'est... Je pense qu'il y a deux niveaux dans votre question. La première question, c'est qu'effectivement, les bêtes peuvent nous servir d'exemple. Ce que va faire La Fontaine, et bien avant lui, Ésope, mais aussi ce que vont faire les pères de l'Église. Les pères de l'Église nous présentent souvent, et en fait la Bible, voyez, la fourmi est donnée en exemple dans le livre des Proverbes, l'autruche dans le livre de Job, toutes sortes d'animaux, toute une ménagerie ne cesse d'être sollicitée pour qu'on opère une lecture morale, symbolique, de l'existence de ces bêtes et les prendre en exemple. Je pense au bœuf et à l'âne de la crèche, qui ne sont pas d'ailleurs dans la Bible, qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, qui sont dans la crèche de Greccio, de François d'Assise, mais qui ont une source dans l'Ancien Testament. C'est lorsque Isaïe, au début du livre d'Isaïe, dit le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, alors que toi, Israël, tu m'as oublié, moi ton Dieu. Bon. Donc, regarde, il y a une fidélité du bœuf, il y a une fidélité de l'âne, et toi tu es infidèle. Regarde, il y a une industrie de la fourmi, et toi tu es paresseux. Regarde, voyez, donc on a. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a cette idée que Dieu a créé toutes choses et que les autres, les diverses créatures sont des paroles de Dieu. C'est pas du tout simplement une fable. Ça, c'est ça qui est génial chez les pères de l'Église. Chez Ésope, ça n'est qu'une fable. C'est pas l'idée d'un Dieu créateur. Chez La Fontaine, on est dans un entre-deux. La Fontaine finit. On était très étonnés de voir que cet homme qu'on a cru libertin portait un cilice sur le corps, hein, quand on l'a retrouvé mort. Et donc c'était un ascète aussi, et un pénitent. Mais cette idée que si les choses sont créées par Dieu, alors elles sont des paroles de Dieu. Et on peut rationnellement les prendre en exemple. Donc, que les bêtes puissent être des maîtres spirituels, c'est toute la tradition de la Bible, de l'Église, et ça trouve, à mon avis, sa manifestation la plus haute dans l'écriture de saint François de Sales, hein, qui ne cesse de recourir à l'exemple des bêtes ou des plantes, qui ne cesse de lire des cas particuliers qu'il va trouver dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, pour faire des transpositions, des morales spirituelles, pour donner des enseignements à des religieuses. Donc, il pourrait très bien dire aux religieuses, regardez les cochonnes et prenez-les en exemple. Vous voyez, bon, ça c'est, pourquoi pas? C'est tout à fait digne d'un chrétien de parler comme ça. Mais il y a une autre remarque que vous faites, à mon avis, qui est fondamentale, c'est le fait de dire aussi, est-ce que le but de la morale humaine, ce serait d'être comme sur des rails, de trouver une sorte d'instinct. Et si vous voulez, si c'était le cas, s'il fallait être rousseauiste, c'est-à-dire de dire où il faut tout limiter à nos propres besoins et en rester là, ou puritain, voilà les règles, et on ne fait que ça, et finalement, si on pouvait les faire automatiquement, ce serait mieux, eh bien, ça veut dire que, oui, mieux vaut être un porc. Non, mais c'est bien ça. L'homme hésite, l'homme tâtonne, l'homme se trompe, l'homme entre dans la misère pour expérimenter la miséricorde, l'homme invente des nouvelles voies. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Quelle est la vraie mesure de l'avoir? Par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire, bah, oui, regardez les iPhones, ça ne sert à rien, on a déjà vécu sans iPhone. Oui, d'accord, mais en même temps, les smartphones font partie de notre vie, et si ça nous permet de faire du bien aux autres, alors comment est-ce qu'on fait? C'est problématique, toujours. L'homme est un être historique. Et vouloir, vous voyez, revenir à l'instinct, c'est-à-dire ne pas avoir d'histoire. Moi, je ne veux pas avoir d'histoire, vous voyez. Je veux être, c'est vouloir vivre comme un porc. Donc oui, il y a d'un côté une exemplarité des bêtes, mais de l'autre côté, il faut bien comprendre que nous ne devons pas fantasmer une vie morale comme vie qui produirait automatiquement le bien. Parce que d'une part, il est normal que nous puissions nous tromper, et d'autre part, il n'y a pas qu'un seul bien pour nous. Chaque homme est là pour inventer, dans les circonstances de sa vie, une nouvelle manière de voir le bien, de faire le bien. On pourrait dire que chaque homme, Dieu veut écrire un nouvel évangile avec lui.
Quel serait alors ce... Nous admirons, pardon Fabrice, les animaux pour toutes les grandes... prouesses techniques qu'ils peuvent réaliser, le grand vol des animaux, comme j'en parlais dans mon introduction, ou la toile que tisse l'araignée, est-ce que la grandeur de l'homme, ce serait justement de pouvoir choisir le bien sans être sur des rails?
Oui, c'est son mérite en tout cas, parce que c'est sans mérite si on est sur des rails. Et puis de l'autre côté, je crois qu'il y a une grandeur chez l'homme qui est aussi dans son ratage. Il y a une grandeur clownesque chez l'homme. Et qu'on trouverait moins chez les autres animaux. Le clown, c'est celui qui rate, qui tombe et qui se relève. Et il procure de la joie avec ça, vous voyez. Bon, alors, nous, on n'arrête pas de tomber. On n'arrête pas, mais parce que justement, on est dans cette dramatique de la miséricorde, parce qu'on entre dans cette lumière très particulière qui est celle du pardon, de la rédemption. Donc voilà, bien sûr que l'homme est plus grand que les bêtes par sa dignité, par sa parole. Il peut tomber aussi plus bas que la bête par son péché, par sa bêtise et sa bestialité. Mais aussi, il y a un troisième point qu'il faut dire, c'est que quand il est tombé le plus bas possible, c'est le lieu où il peut être relevé par une grâce. C'est le lieu où il peut faire appel aux autres. C'est le lieu où, justement, d'une communion, d'une solidarité plus profonde, parce qu'on est des compagnons de misère, si j'ose dire. Donc, c'est pour ça que je dirais... les anciens ont souvent dit la grandeur de l'homme, mais aussi la misère de l'homme, par rapport aux autres animaux. Et il est à la fois au-dessus et en dessous. Mais en même temps, lorsqu'on pense le mystère de la miséricorde, on se rend compte que quand il est en dessous, ben c'est là, dans cette humilité-là, qu'il va trouver sa grandeur divine.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Plutarque, Fabrice Adjadj, Geldric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.